Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France.
Et on évoque le monde de l'entrepreneuriat ce soir sur Sud Radio jusqu'à 20h. En plateau, bien évidemment, avec Jamel à la réalisation. Et deux grands sujets ce soir. Le retour au bureau, quels impacts du distanciel et du Covid? Ça, ce sera notre premier sujet dans un instant avec nos invités. Et puis, un peu plus tard, vers 19h45, comment aider les jeunes à entreprendre? Voilà le sujet aussi qu'on vous propose. N'hésitez pas à 0826-300-300. 5 centimes l'appel, le standard est ouvert pour évoquer ces questions-là. Le retour au bureau, quels impacts du distanciel et du Covid? La crise du Covid a bouleversé nos quotidiens, notamment dans le secteur de travail et où le télétravail s'est imposé, mais avec l'allègement progressif du protocole sanitaire, le retour en présentiel est encouragé, mais aussi redouté. On va accueillir tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour Jean-Claude Delgen.
Bonjour.
Alors, vous êtes président fondateur du groupe Technologia, spécialisé dans les risques professionnels, auteur de Suicide, un cri silencieux aux éditions du Cavalier Bleu.
Tout à fait, merci de le citer.
Avec grand plaisir.
C'est un livre qui a été un peu sacrifié par la crise du Covid, puisque je l'ai publié en février 2020 et malheureusement, il est tombé
c'est
un peu dans...
C'est pas la meilleure période,
oui. Voilà.
On est aussi avec Morgane Leclerc, dirigeante de Compress. Bonsoir.
Bonsoir.
Ouais, et puis enfin, Stéphane Pinaton, associé de One Man Support, cabinet de conseil en stratégie et organisation. C'est un pool de consultants indépendants, de références, de haut niveau.
Exactement. Donc, on a créé maintenant, il y a 8 ans, un réseau de consultants et d'experts indépendants. Donc, au démarrage, on était quelques-uns. Maintenant, on est plus de 2000. On travaille pour des clients de toute taille, des grands groupes, des PME, des fonds d'investissement. Et depuis le début, on est nous-mêmes organisés en remote, avec une organisation complètement horizontale. Donc, on était déjà depuis longtemps dans le nouveau mode de travail. Et on observe, du coup, activement, et on est un des acteurs des évolutions des tendances du travail aujourd'hui qui ont été largement accélérées par le Covid.
Donc voilà. Là, on rentre dans un nouveau monde, on pourrait dire, peut-être. D'ailleurs, on verra si c'est le bon terme. Depuis le 9 juin, le télétravail n'est plus obligatoire. Jusqu'ici, la règle était de le pratiquer systématiquement quand l'activité le permettait. Je précise bien là-dessus. Désormais, les entreprises doivent déterminer un nombre minimum de jours télétravaillés à l'issue d'échanges entre la direction et les représentants des salariés. C'est ce qu'a précisé le gouvernement. Est-ce qu'il faut fermer tout simplement la parenthèse distancielle? C'est la première question que je vous pose à tous les trois. Jean-Claude, oui. est-ce qu'il faut la fermer, cette parenthèse distancielle?
La première chose, déjà, si on veut la fermer, c'est d'être en capacité de le faire. Aujourd'hui, ce que l'on peut dire rapidement sur les conséquences de cette évolution de société, parce qu'on a eu une profonde évolution de la société qu'il ne faut surtout pas négliger. En clair, on a eu ce qu'on appelle une dysrhythmie sociale. Chacun d'entre nous à ses propres rythmes et s'articule à des temps sociaux. Mmh. Et donc, à des routines de travail, à des habitudes. Avec le confinement en mars 2020, on a eu une rupture des routines de travail, une rupture des habitudes. Chacun s'est adapté comme il l'a pu. Et il faut dire les choses comme elles sont, nous avions beaucoup de retard dans la mise en œuvre du télétravail. Énormément de retard, par exemple, par rapport à un pays comme l'Allemagne. On était à peu près, nous, à 1,7 million de personnes. Globalement, 8% des salariés avaient déjà télétravaillé dans leur vie. Mmh. L'Allemagne était à 22%. Vous voyez, donc 8-22%. Et donc, on n'a pas pu préparer cette transition, on l'a subie. Bon, il y a eu des effets positifs très importants. Le fait est qu'on a gagné 8 à 10 ans de maturité numérique parce que tout le monde est tombé dans le bain. Ceci dit, il y a eu beaucoup de conséquences. Et nous, on a vu 3 profils. En fait, rapidement, premier profil, c'est les personnes qui sont les décrocheurs. Il y a eu des gens qui ont totalement décroché parce qu'ils n'avaient pas la capacité, si vous voulez, à être autonomes pour mener leur travail à distance. Deuxième aspect, des décrocheurs, ceux qui n'étaient pas avec la maturité numérique, par exemple les gens de plus de 55 ans, de plus de 60 ans, qui n'avaient pas la culture informatique, à qui on demandait de travailler sur des logiciels.
Difficile pour eux, ouais.
Voilà. Donc là, il y a eu des décrocheurs. Et puis en plus, les jeunes aussi. Les jeunes, pour d'autres raisons, ont beaucoup décroché et ont travaillé plutôt le tard, le soir et la nuit. Et donc, ça a eu des conséquences. La deuxième typologie, ce sont ce qu'on appelle les surengagés. Des gens anxieux qui avaient peur de perdre leur emploi et qui se sont mis à travailler de manière démesurée. 7h du matin, 23h le soir parfois.
Et là, on se posera tout à l'heure la question de la santé mentale aussi.
Voilà, burn-out, etc. Nous, on en a constaté. Et puis, le troisième, c'est ce qu'on appelle les sous-engagés lucides. C'est-à-dire beaucoup de gens qui, dans les études que nous avons menées à Technologia, on l'a vu, qui ont décidé de préparer autre chose, de faire faire autre chose de leur vie parce qu'ils se sont aperçus que la vie qu'ils menaient, du fait de l'écroulement.
Le fameux déclic.
Voilà. Et donc, aspiration à faire autre chose. Et on a à peu près 600 000 personnes qui ont quitté la région parisienne pour s'installer ailleurs. Et donc, ça bouleverse tout. Les écoles, l'immobilier, etc. Donc, c'est ça la réalité. Et donc, aujourd'hui, comment, pour répondre à votre question, comment faire quand vous avez une compétence critique ou stratégique dans une entreprise, comment imposer un retour plein pot en entreprise quand la personne, elle est partie à 600 km, quoi, vous voyez, donc c'est pas possible.
C'est pas possible.
Voilà, ça c'est le vrai sujet.
Et pourtant, vous, Stéphane Pinaton, vous dites que ce télétravail a été un succès quand même malgré tout. Dans la mise en place en tout cas, et dans l'efficacité de la mise en place, ça a été plutôt un succès.
Nous, en plein confinement l'année dernière, on a interrogé nos quelques 200 clients sur comment est-ce qu'ils vivaient cette crise, comment ils se réorganisaient pour l'affronter. Et quelques enseignements clés qu'on a tirés, c'est que, un, effectivement, la surprise générale de tout le monde, le 100% télétravail a marché. On n'a pas assisté à des arrêts de processus, les gens se sont adaptés. Et ça a prouvé quelque chose d'assez fort, je trouve, c'est que l'agilité des organisations et des individus est bien plus importante et extraordinaire que quiconque aurait pu l'imaginer avant.
On était surpris, est-ce que vous avez été surpris de tous globalement?
Ah oui, nous, je sais qu'au sein de l'agence, au sein de la direction, on se l'a dit plusieurs fois, on avait peur de gérer, entre guillemets, des catastrophes, quoi. C'est-à-dire que les gens nous disent « non mais je m'en sors pas, c'est compliqué, on n'a pas pu s'organiser, etc. » On a eu zéro catastrophe pendant tous les confinements. Et pourtant, les gens ont dû gérer leur travail, des visios, les enfants et les devoirs. Enfin bref, ils ont dû jongler et faire preuve d'une capacité d'adaptation qui est dingue.
Oui, on a un succès à court terme dû à une résilience collective, ça c'est très clair. Ceci dit, ce qu'il faut faire attention, c'est aux effets d'optique. Ce qui a marché à court terme ne marche pas forcément aussi bien sur le moyen long terme.
Et ça, on va l'évoquer effectivement.
Voilà. Et c'est ça le danger, c'est pas de se laisser griser. On l'a vu aux États-Unis d'ailleurs. Aux États-Unis, vous avez eu un retour à domicile, comme on peut dire, qui était imposé par les directeurs de société parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait des conséquences négatives. Alors, on a vraiment, on peut dire, le génie français. C'est-à-dire que sans transition, les salariés, leurs représentants, les dirigeants, tout le monde s'est adapté pour assurer. Et ça, c'est fabuleux.
Stéphane Pinaton.
Non, mais je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que ça a marché, mais c'est pas si bien que ça. C'est-à-dire que ça a engendré quand même de la souffrance, de la perte de repères, de la perte de motivation pour certains, de la perte de productivité quand même, faut souligner.
C'est constaté, oui.
Donc, ça a marché, on y a survécu, mais c'était quand même pas très satisfaisant comme expérience. Et un des enseignements clés, c'est que pour que ça fonctionne de manière durable, on peut pas continuer à ISO organisation, à ISO mode de management, à ISO processus. Ça nécessiterait, pour être pérennisé, des gros changements. Donc c'est vrai que nous, le retour au bureau et on constate une bonne nouvelle, bien sûr, parce que pour les entreprises, ça permet de retrouver de la flexibilité dans l'organisation. Pour les salariés, clairement, le 100% distanciel était trop dur pour la plupart. Je pense qu'il y a une petite minorité pour qui était complètement satisfait de ça, mais pour la plupart des gens sont quand même contents de retourner au bureau plusieurs jours par semaine.
Morgane Leclerc.
Oui, je rebondis sur ce que vous dites. En fait, nous, on est en plein dans le sujet. Puisqu'en fait, on était encore en télétravail jusqu'à maintenant et on envisage un retour présentiel début octobre.
Progressif ?
Alors, en fait, ça a été l'objet de longues discussions et c'est là où effectivement ça engage une réflexion sur le moyen et long terme. On ne peut pas seulement dire aux gens, vous passez d'un 100% télétravail à un 100% présentiel. C'est violent moralement, mais même dans les organisations de travail, ça ne peut pas se faire sur un claquement de doigts. Et donc, en fait, nous, on a acté une espèce de compromis en disant qu'on voulait 3 jours de présentiel et 2 jours de télétravail, en se disant qu'il fallait garder une majorité de vie d'agence. Puisqu'en fait, pour moi, ça pose des questions concrètes et à la fois théoriques. C'est-à-dire qu'il faut faire revivre ce vivre ensemble, qui a plus existé
bien
pendant
sûr.
Plusieurs mois, etc. Ou en tout cas, qui a été très mal mené. Et en même temps, concrètement, moi, par exemple, au sein de l'agence, je suis chef de service du plus gros bureau, donc on est une dizaine. Il va falloir réapprendre à vivre avec les autres,
à manager aussi.
À manager, la personnalité silencieuse, le très bavard, les téléphones qui sonnent tout le temps. Enfin voilà, on s'est habitué à un mode de travail très différent chez soi.
Est-ce qu'un accord pour justement le retour du présentiel, c'est l'enjeu principal de cette rentrée ?
Oui, je pense que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est tout à fait juste comme entrée dans le débat. Quand vous avez un accord entre les remontants du personnel et la direction, en associant aussi la médecine du travail, parce qu'il faut faire des bilans réguliers. Hein. Quand vous avez cet accord-là, vous parlez à plusieurs voix. Et moi, je suis vraiment pour ce changement concerté de grande ampleur et pour que ce changement soit participatif. Hein, c'est ce que nous, on dit toujours à Technologia, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Quand vous imposez des règles top-down comme ça, vous allez, si vous ne prenez pas en compte les aspirations, vous allez générer de l'absentéisme, de la perte de qualité, du turnover, les meilleurs vont se sauver, et vous aurez beaucoup de mal. Donc, il faut vraiment trouver un accord, vous l'avez dit tout à fait justement, il faut vraiment encadrer ça dans une démarche de discussion constructive pour éviter d'avoir des effets de boomerang en retour. J'ajouterai une chose qui est très importante dans cette question-là, c'est de réfléchir sur le long terme. Pourquoi ? Parce que le télétravail suppose de penser à l'avance les choses, même si vous êtes en interaction. Or, penser en avance les choses peut vous conduire à perdre en créativité. Je donne souvent l'exemple, mais par exemple, Fleming, il n'a pas découvert la pénicilline en cherchant la pénicilline. Il a laissé un jour sur ses étagères des lamelles qui ont travaillé tout le week-end, et quand il est revenu, il s'est aperçu qu'il y avait des champignons qui se sont développés, il a découvert la pénicilline. Eh bien, c'est ça la créativité, c'est ça l'innovation. Très souvent, regardez les post-it, regardez bon nombre d'innovations, elles sont découvertes par hasard. Et lorsque vous êtes en télétravail, quelque part...
Le lieu de travail est important.
Ouais, le lieu ce qu'il faut comprendre, c'est que le télétravail tend à éviter tout ce qui est incertain, tout ce qui est impromptu. Parce que c'est penser à l'avance. Voyez, et donc, quand vous ne laissez plus rentrer la vie, en fait, parce que l'impromptu, l'incertain, c'est la vie, dans vos processus, vous vous coupez des réalités du monde. Et là, vous perdez en créativité. Et donc ça, c'est très... ce qu'on appelle la perte de sérendipité, c'est très grave, ça peut être très grave pour une entreprise. Et quand vous avez tout le monde qui est en commun, tout le monde qui partage, tout le monde qui est en intelligence collective, 1 plus 1 plus 1 n'égale pas 3, égale 10 ou 15, parce qu'il y a un brainstorming, il y a un échange. Quand vous perdez ça, là, vous pouvez perdre beaucoup. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention sur le moyen long terme à trouver des agencements, des articulations qui permettent de bénéficier des avantages du télétravail, il y en a, mais aussi de gérer les inconvénients.
Morgane.
Oui, c'est très juste. Je rebondis sur la partie plus pratique. Nous, on l'a constaté parce qu'au début, il y a eu une espèce d'euphorie de télétravail et de surproductivité avec des horaires très, très larges. Et en fait, on s'est aperçu qu'on avait perdu beaucoup en échange et justement en idées créatives qui arrivent.
Le collectif, parfois, voilà, aussi, est très, très important. Hein. Très important.
C'est le plus important.
J'ai une question, Stéphane, ouais. Et là pour le coup, c'est aussi un cas, je pense, qui existe et peut-être moins qu'on peut l'imaginer, que le télétravail a peut-être aussi donné envie à des employés de ne plus travailler sur le lieu de l'entreprise, d'être parfois aussi seul, aimer cette idée de solitude, entre guillemets, de travail autonome. Comment on fait quand on est confronté face à cet employé-là qui, lui, fait la démarche de vouloir travailler en télétravail?
C'est une bonne question et effectivement... on observe qu'une majorité des salariés ne souhaitent pas un retour à 100% présentiel et certains souhaitent rester 100% distanciel. Donc, demain, l'entreprise qui veut réussir va devoir, pour attirer les meilleurs talents, sans doute s'adapter à leurs desiderata et à leur volonté et pouvoir proposer une organisation du travail un petit peu plus à la carte qu'aujourd'hui.
Donc, de la flexibilité de l'entrepreneur.
Voilà. Ouais. Et moi, je pense qu'il va y avoir un clivage entre les entreprises qui vont vouloir refermer la parenthèse de la crise et donc repasser à un 100% présentiel un peu dur pour ne pas changer leur mode de fonctionnement.
Ça va jouer sur l'attractivité des boîtes.
Et celles qui vont arriver à se transformer pour pouvoir proposer cette flexibilité. Certaines personnes vont vouloir être tous les jours au bureau, d'autres un jour par semaine, etc. Et cette capacité à proposer cette flexibilité sera un énorme facteur, à mon sens, d'attractivité pour les entreprises. Et pas seulement, également en avis de productivité, de réduction du turnover, et également aussi, extra cohérent avec leur volonté de réduire leur impact environnemental. Hein, parce que quand on permet aux gens de travailler à distance et que c'est des gens qui habitent loin, bah, finalement, on est cohérent avec une démarche responsable RSE. Donc, passer à ça, c'est pas anodin. Il y a des énormes chantiers de transformation à tous les niveaux, depuis la stratégie, la vision de l'entreprise, donc le plus haut niveau de la pyramide, jusqu'à la redéfinition des process, des outils, en repassant par aussi réapprendre aux managers à manager différemment, arrêter peut-être de micromanager pour plus donner aux gens des objectifs leur permettant d'être plus autonomes. Ça, je pense que l'autonomie, c'est un mot clé dans le monde du travail de demain. Et ça, c'est des chantiers qui, pour les entreprises qui sauront les adresser, sera un facteur clé de succès majeur. Et moi, nous, on observe des très grands groupes, des multinationales leaders sur leur marché, qui, dès l'année dernière, ont commencé à travailler pour se transformer dans ce sens-là. Et donc, qui vont prendre de l'avance encore plus par rapport à leurs concurrents qui ne le feront pas.
Morgane Leclerc, puis Jean-Claude Delgen.
Oui, je poursuis un peu. C'est ce côté aspiration très différent d'une personne à l'autre, c'est-à-dire quelqu'un qui voudrait rester tout le temps chez lui et une personne, au contraire, qui veut rester au travail. Nous, on le vit même à l'échelle de l'individu. Et c'est là où, effectivement, on a dû poser des questions, trouver un compromis, etc., pour arriver à mettre autour de la table des gens qui, eux, voulaient rester chez eux, et à l'inverse, d'autres qui voulaient rester au bureau, mais bien sans sûr. Le retour de tout
Prendre
le monde.
Une décision collective pour des individus, c'est très compliqué.
Ouais, moi, je fais trois constats, en fait, aujourd'hui, avec les études que nous menons régulièrement. Le premier constat, c'est que le télétravail a permis aussi de limiter, d'une certaine manière, c'est un peu contradictoire, et c'est un peu... contre-intuitif, mais à limiter de manière sensible ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Vous voyez, le fait d'être à distance, vous avez eu moins de harcèlement moral, moins de harcèlement sexuel, moins de discrimination, moins de sexisme. Nous, on l'a constaté, on a fait une grosse étude l'an dernier avec vos confrères de Challenge et de France Info, on a démontré ça. Ça, c'est un premier constat. Deuxième constat, ce qui a été dit est très vrai, il y a une révolution du management. Aujourd'hui, manager à distance, c'est faire confiance, c'est donner envie, c'est faire en sorte de soutenir, faire preuve d'empathie. C'est donc une véritable révolution parce qu'en France, le management est plutôt basé sur le contrôle et sur le top-down avec nos élites qui sont en fait un peu en retard.
Mais si je vous suis, en fait, ce Covid et cette période-là a changé peut-être à jamais la relation employeur-employé, le monde du travail.
On ne pourra pas revenir en arrière.
On ne pourra jamais revenir à ce qui s'est passé avant.
Non.
Alors, à mon sens,
une dernière chose que je voulais dire, qui me paraît très importante, c'est qu'il y a une manière de prendre le problème qui doit être aujourd'hui un peu stigmatisé. On parlait des grands groupes. Moi, je suis dans des négociations avec des entreprises du CAC 40 aujourd'hui. La manière de prendre la question est quand même un peu surprenante parfois parce qu'on prend la question sur du télétravail avec la volonté de faire des économies en matière immobilière. Il faut savoir que l'immobilier, c'est globalement le deuxième poste en général de dépenses dans l'entreprise, le deuxième poste budgétaire. Et donc aujourd'hui, je vois par exemple, je pense à un accord, je ne peux pas donner le nom de l'entreprise, l'entreprise a signé un accord avec le remontant du personnel, assez généreux en matière de temps de travail, de télétravail, puisqu'on est à 3 voire 4 jours tolérés par semaine, ce qui est à mon avis une hérésie.
Oui, ils vont vendre la moitié de leur locaux.
Et là, et avec un accord de 40% de réduction des surfaces immobilières dans la région parisienne. Ce qui est pour moi une hérésie. Parce que, à terme, on va avoir une grande perte en termes de création, en termes de, on n'a pas le temps de trop d'en parler, mais en termes d'intelligence collective
et de cohésion
de l'entreprise.
On va revenir évidemment dans un instant sur Sud Radio autour du deuxième sujet. Comment aider les jeunes à entreprendre? Évidemment, on reste ensemble, les vraies voix qui font bouger la France.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France.
Et le sujet, évidemment, autour du monde de l'entreprise. On vient d'évoquer le retour au présentiel, les impacts du distanciel et du Covid sur le monde de l'entreprise. On se pose maintenant la question, comment aider les jeunes à entreprendre? On est toujours avec nos invités qui sont toujours autour de la table. Jean-Claude Delgen, président fondateur du groupe Technologia. On est aussi avec Morgane Leclerc, dirigeante de Compress. Et puis Stéphane Pinaton, associé de One Man Support. Voilà, toujours autour de la table. On accueille sur notre antenne Thibaut de Saint-Simon, directeur général de la Fondation Entreprendre. Reprendre, ancien président de la fabrique Aviva, qui est un incubateur. Bonsoir Thibault.
Bonsoir à tous.
On accueille aussi Caroline Roger-Moigneux, directrice de Femmes de Bretagne. C'est un réseau d'entraide entre femmes pour monter en compétences, créer du réseau. Bonsoir Caroline.
Bonsoir.
On s'entend tous très bien, c'est parfait. Comment aider les jeunes à entreprendre? On est parti d'un constat quand même que ces jeunes ont beaucoup de mal à entreprendre. Quel est l'impact, quel est pour l'instant le degré de gravité du problème qu'on a en France pour ces jeunes qui ont du mal à entreprendre? Faisons d'abord le point sur la situation actuelle, Thibaut de Saint-Simon. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un problème entre la jeunesse et l'entrepreneuriat?
Je pense pas qu'il y ait un problème entre la jeunesse et l'entrepreneuriat. Au contraire, je pense que les jeunes en France, ils ont très envie d'entreprendre parce que l'entrepreneuriat répond à beaucoup de ce que les jeunes souhaitent, hein, de la liberté, de la créativité, de l'envie de l'engagement. En revanche, l'accès à l'entrepreneuriat est pas toujours facile pour ces jeunes. Et donc, nous, à la Fondation Entreprendre, on est convaincus de deux choses. C'est que, il faut sensibiliser, éduquer, initier à l'entrepreneuriat dès l'école, dès le lycée, parce qu'en fait, la première barrière parfois face à l'accès à l'entrepreneuriat, c'est soi-même. On se dit qu'on n'a pas les compétences, pas le réseau, pas l'argent, et donc on n'ose même pas s'envisager entrepreneur. Et donc nous, on finance des magnifiques programmes qui vont initier, rendre accessible l'entrepreneuriat à tous les jeunes. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Et puis même si c'est des jeunes qui ne deviennent pas entrepreneurs, ils développent des compétences comme l'esprit d'équipe, la créativité, l'esprit d'initiative dans ces programmes. Et ça, je pense que c'est, quoi qu'il arrive, hyper favorable face à leur employabilité. Et le deuxième sujet, c'est qu'en revanche, quand les jeunes se lancent, l'aventure entrepreneuriale, c'est difficile, il faut le savoir, et donc il faut être accompagné. Mais la chance qu'on a en France, c'est qu'on a des magnifiques réseaux qui accompagnent les entrepreneurs tout au long de leur parcours. Caroline, elle fait partie de ces réseaux, je pense qu'elle pourra en parler, en témoigner. Et donc, je pense qu'il faut dire aux jeunes de se lancer en étant accompagné et d'aller toquer à la porte de tous ces réseaux d'accompagnement à l'entrepreneuriat qui sont notamment financés par la Fondation Entreprendre.
Ouais, c'est notamment le cas de Femmes de Bretagne et notamment Caroline Roger Moignon. On se rend compte que, notamment, donc, être jeune, c'est difficile pour entreprendre, d'être une femme jeune, d'autant plus puisque la difficulté d'entreprendre touche encore plus les femmes, et c'est un terrible constat qu'on fait en 2021.
Oui, effectivement, Alexandre, je partage tout à fait ce que vient de dire Thibault, et on a la chance d'être nous-mêmes accompagnés par la Fondation Entreprendre, et je le remercie encore parce que c'est une magnifique fondation qui a un vrai impact sur les jeunes, sur les femmes, sur l'entrepreneuriat. Donc je fais un petit merci au passage à Thibault et à la Fondation. Et effectivement, quand on est une femme, c'est déjà plus compliqué d'entreprendre pour différentes raisons. Les chiffres sont en train de grimper, la crise et le confinement a peut-être eu cet effet un peu positif, c'est que les chiffres étaient stables depuis 30 ans, on était à 29% de femmes entrepreneurs, et l'année dernière avec le Covid, les chiffres sont montés jusqu'à 33%, donc ça a été une augmentation importante.
Une augmentation importante. Quelle est la première grande difficulté du jeune qui veut entreprendre, Jean-Claude Desgenes ?
Alors, la première chose, je pense que ça a été dit, c'est très intéressant ce débat, c'est que la création d'entreprise, je réfère à une expérience que j'ai eue, puisque quand j'étais au ministère de l'Industrie, j'étais un des responsables de ce service-là au niveau de la création d'entreprise au début des années 80. Mais on voit bien que la création d'entreprise est complexe. Mais la complexité ne doit pas pour autant décourager. Et donc, il faut l'accompagner et il faut en réduire, les effets en garantissant, avec peut-être un capital au départ, pour permettre de subir, de tenir.
Faire une dotation au capital de départ, ça, c'est quelque chose qui peut être faisable ?
Oui, tout à fait.
On peut l'imaginer ?
Il y a des pays qui le font. Je voulais dire aussi, c'est que...
Il faudra faire court parce qu'on a...
Le spontané précède le conscient. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de réduire toute la complexité dans une équation de compréhension. Il faut se lancer, il faut oser se lancer, il faut y aller, et pour pouvoir effectivement après affronter des échecs, peut-être, mais aussi réussir. Et donc, la question fondamentale, c'est combien d'argent vous avez pour tenir le temps de rencontrer votre premier contrat, votre premier succès et de prendre votre envol. C'est ça le vrai question. La mortalité des entreprises, elle tient au départ, au montant du capital investi. Si vous avez très peu de capital, ça sera très compliqué. Voilà.
On va faire court, un petit peu plus court désormais, parce qu'on va manquer de temps. Sinon, Stéphane Pinaton, la relation de l'économie française, du monde du travail français à l'échec.
Écoutez, c'est une des principales barrières psychologiques à la création d'entreprise. Bon, moi-même, j'ai créé plusieurs entreprises. Et ce qui m'a conforté dans ma capacité à franchir le pas, c'est de savoir que j'avais fait des études correctes, que j'avais une première expérience professionnelle qui me permettrait, après, derrière, si ça échouait, de retrouver un travail et donc de ne pas me retrouver sans rien. Ce que j'ai constaté, ce que ça m'est arrivé, j'ai monté une première entreprise qui a échoué, c'est que ce qui a été valorisé, ce qui m'a permis de retrouver un travail, c'est ma première expérience professionnelle et non pas mon expérience d'entrepreneur. Et là, je pense qu'on a un problème culturel en France, et je pense que les DRH et les recruteurs des grands groupes ont un gros rôle à jouer, c'est de mieux valoriser cette expérience d'entrepreneur qui a énormément de valeur, parce que ça développe beaucoup les personnalités, ça marque quand même une certaine capacité de prendre des risques, et dans le monde de l'entreprise en interne, on a de plus en plus besoin de ce type de personnalité, et donc messieurs les recruteurs, recruter des entrepreneurs, même s'ils n'ont pas fait les meilleures études ou qu'ils n'ont pas eu un parcours classique.
Caroline Roger-Moigneux, oser aussi, c'est votre message ?
Oui, tout à fait, permettre aux femmes d'oser, de se dire que l'entrepreneuriat, c'est aussi pour elles, quel que soit leur parcours, quel que soit leur profil, quel que soit leur âge, quel que soit leur quartier, qu'elles vivent dans la ruralité. C'est le message porté par Femmes de Bretagne, accompagné par des bénévoles entrepreneurs, et on est un réseau d'entraide et de soutien entre femmes, et on voit bien que ça marche. Voilà, la sororité a des effets positifs.
Morgane Leclerc ?
Oui, je voulais rebondir aussi sur une chose qui, pour moi, a fait un peu bouger les lignes au niveau des jeunes. Parce que souvent, on tape dessus, mais ça a quand même des bons côtés, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on a vu beaucoup, beaucoup de jeunes profils et de gens quitter les routes classiques de du salariat et se mettre à leur compte, alors pour plein de toutes sortes de projets. Hein. Ça va des influenceurs, évidemment, mais jusqu'à des jeunes marques engagées, même dans le cosmétique, etc. Et je pense que ça, ce que n'a pas pu apporter encore la culture à l'école ou même la culture en entreprise, les réseaux sociaux l'ont un peu désacralisé et les gens se sentent capables d'eux.
Le mot de la fin pour Thibaut de Saint-Simon, votre message à la jeunesse qui veut entreprendre, qui se pose la question aujourd'hui, on a quelques secondes encore.
Eh bien, il faut qu'elle se lance, clairement. Je pense que tout a été dit. Lancez-vous et faites-vous accompagner. Encore une fois, on a des associations qui aident partout, partout dans le territoire français les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, comme Femmes de Bretagne et beaucoup d'autres. Et donc, contactez ces réseaux-là. Et si vous ne les connaissez pas, vous pouvez passer par la Fondation Entreprendre. On vous mettra en relation.
Merci beaucoup à Jean-Claude Delgène, président fondateur du groupe Technologie, à Morgane Leclerc, dirigeante de Compress, à Stéphane Pinaton, associé de One Man Support, et de Caroline Roger-Moigneux, directrice de Femmes de Bretagne, et de Thibaut de Saint-Simon, directeur général de la Fondation Entreprendre. Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine autour du monde de l'entrepreneuriat, mercredi prochain. Dans un instant, le Love Music avec Yvan Cujous qui reçoit Léa Castel.